Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mardi 13 janvier 2026. On a tous bien compris que la méthode de Trump jusqu'à la fin de l'année sera d'inonder les médias d'informations, de tweets, de déclarations, d'interviews ou de punchlines sur les sujets divers et variés afin d'occuper le terrain et de faire croire qu'il est vraiment en train de changer les choses. Je ne sais pas s'il change les choses ou s'il va changer les choses, mais par contre, il y a une chose que je sais, c'est qu'en ce qui nous concerne, dans le monde de l'investissement, on s'adapte. La première fois, on flippe, on panique, on doute et puis on se rend compte que plus de la moitié de ce qu'il dit, c'est du pipeau. Et du coup, on ressort le bon vieux concept du « buy the dip ». Oui, le bon vieux buy the dip est de retour, celui qui a émaillé nos séances de 2025 est toujours là, bien présent et toujours prêt à faire le job à la première occasion. Hier, nous avons entamé la journée avec des futurs au fond du bain qui est l'angoisse de voir le FBI faire un raid à la Fed pour arrêter Powell. Et puis, au fur et à mesure de la séance, on a commencé à réfléchir. Et puis, on a racheté en se disant que cette attaque fomentée par Trump ou pas, puisqu'il dément être partie prenante, même s'il y a des faisceaux d'indices qui ne laissent pas trop planer de doute, cette attaque ne changera pas grand-chose à la politique de la Fed et ne devrait pas non plus forcer Powell à baisser les taux plus vite en échange. En effet, le temps de poursuivre et de traîner le patron de la Fed devant une cour de justice, il est probable qu'il soit déjà parti à la retraite et remplacé par un des potes de Trump. Du coup, les marchés sont remontés et les politiciens aussi sont remontés, puisque lorsque l'on fait un peu le point sur la situation et les attaques de mauvaise foi contre Powell de ces 12 derniers mois, certains législateurs américains commencent à en avoir marre de ce sketch pathétique et menacent de mettre les pieds au mur pour les prochaines nominations prévues à la Fed. On commence quand même au Sénat, à s'inquiéter du fait que la Maison-Blanche ait un peu trop son mot à dire dans la politique monétaire et que la disparition de la fameuse indépendance de la Fed pourrait quand même être un problème un peu trop dangereux pour qu'on l'ignore. Une fois que nous eûmes digéré la nouvelle de Powell et commencer à admettre qu'après tout, ça ne serait pas si terrible que ça, et les marchés sont repartis de plus belle. Au point le plus bas de la séance, le Dow Jones reculait de 1%, et pour finir, il terminait en hausse de 0,17% au plus haut de tous les temps. Le mouvement était plus ou moins similaire sur le S&P 500, qui lui aussi terminait à des niveaux jamais vus en clôture. Le cas inculpation de Powell n'est donc pas complètement réglé, mais disons qu'il est parfaitement géré par les intervenants, et qu'au pire, ça pourrait même se retourner contre Trump. Enfin, se retourner contre lui, s'il y avait vraiment intention de nuire. En effet, l'acharnement qui est constaté actuellement à l'encontre de Powell commence à fatiguer tout le monde, à commencer par le monde merveilleux de la finance, mais aussi du côté de la politique. Sans compter que dès que l'on gratte un peu sous le vernis, les argumentaires de Trump pour faire dégager Powell, elles sont clairement tirées par les cheveux, pour ne pas dire complètement bidon. Prenons deux exemples de reproches qui sont faits à Powell. Le premier exemple, c'est Trump qui couine depuis des mois que Powell ne baisse pas les taux assez vite et qu'il freine l'économie. Il a même affublé Powell d'un surnom, « Too late », trop tard. Mais la réalité, c'est que Powell a sagement ignoré les tweets assassins en attendant que l'inflation se calme. L'inflation s'est calmée, mais pas autant que ce qu'on aurait voulu. Et si Powell avait écouté le président, les Américains ne paieraient plus leur café avec des dollars, mais probablement avec des brouettes de billets de 100. L'autre critique que l'on entend régulièrement, c'est Trump qui affirme qu'en passant à des taux à 1%, on économiserait 1 milliard de dollars par jour d'intérêt. C'est audacieux, c'est vendeur, mais c'est surtout complètement faux. Trump semble penser que toute la dette américaine se renégocie chaque matin à l'heure du petit-déj. En réalité, seulement 6 500 milliards, une bricole à l'échelle des 39 000 milliards de dettes, sont à court terme. Le reste de la dette est coincé dans des obligations à 10 ou 30 ans. Dire à un investisseur qui détient un bon à 30 ans que son taux tombe à 1% parce que le président l'a dit, c'est un concept intéressant qu'on appelle de la répression financière. Pour faire simple, Trump dit n'importe quoi pour essayer de faire tomber Powell et ça commence à se voir. Ça commence à se voir et le marché l'a bien compris hier. Et l'autre sujet de la veille, en plus de Powell, c'est la thématique des cartes de crédit. On s'en souvient, l'autre coup d'éclat du week-end, c'est le président américain. Oui, encore lui, qui veut caper les taux des cartes de crédit à 10%. Socialement très responsable et d'une bonté inouïe vis-à-vis des gens qui sont endettés, mais qui n'a pas fait plaisir aux usuriers qui gèrent le business. Bread Financial a coulé de 11%, Synchrony Financial a pas lâché 8,4%, Capital One a trébuché de 6,4%, American Express a perdu 4,3%, et Visa et Mastercard ont perdu plus ou moins 1,6 et 1,8%. respectivement. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux cartes de crédit. Elle remonte jusqu'au poids lourd de Wall Street. JP Morgan, moins 1,4% et Citigroup, moins 3%, entraîné dans la chute. Le timing est d'ailleurs parfait puisque JP Morgan doit ouvrir le bal des résultats du quatrième trimestre ce mardi, suivi de Citigroup mercredi. Autant dire que les analystes vont passer un moment, disons, sportif. Trump veut aider le pouvoir d'achat, mais pour les banques, passer d'un taux habituel, souvent supérieur à 20-25%, à 10%, c'est un peu comme demander à un restaurant 3 étoiles et Michelin de vendre ses menus au prix du McDo pendant un an. Et puis, faire des promesses et des déclarations choc, c'est bien, mais si on creuse un peu dans la réalité des choses, dans l'aspect légal et financier, ça n'est pas simple. Trump veut plafonner les taux à 10%, mais il n'a aucun pouvoir légal pour l'imposer, seul par décret. Une telle mesure nécessite un vote du Congrès où les lobbies bancaires feront barrage et feraient face à des recours judiciaires immédiats pour toute ingérence dans des contrats privés. Si les banques ont plongé en boursière, c'est par peur d'une guerre réglementaire et d'une baisse des marges, car un tel plafond rendrait les prêts aux clients risqués impossibles à rentabiliser. En clair, c'est une promesse choc très difficile à tenir techniquement, d'où l'ouverture en baisse et le recovery massif derrière. À la fin, on est au plus haut de tous les temps et on commence à se demander si les déclarations de Trump ne sont pas juste des effets de manche pour occuper le terrain. Et je dis ça parce que visiblement, il n'a aucune stratégie pour le Venezuela, il n'a aucun pouvoir sur le dividende des sociétés dans l'armement, il ne peut pas monter le budget de l'armée à 1500 milliards tout seul dans la Maison Blanche et il ne peut pas faire ce qu'il veut de la Fed. Pourtant, il continue de brasser de l'air avec des posts sur les réseaux sociaux et chaque post est suivi d'un autre post pour noyer le poisson. En résumé, on a l'impression qu'il fait beaucoup de bruit, mais qu'à la fin, il n'y a rien de concret ni de durable. Mis à part ses tarifs douaniers, tarifs qu'il vient d'ailleurs de redégainer pour menacer tout pays qui ferait du business avec l'Iran d'une surtaxe supplémentaire de 25%. Disclaimer, oui, je sais que je vous gonfle avec Trump à toutes les sauces, mais je vous jure que moi aussi, j'aimerais bien parler d'autre chose. Ce matin, le Nikkei 225 ne se contente pas de monter, il a littéralement explosé depuis 3% pour atteindre un record historique à 53 997 points. C'était un mélange de rattrapage après un long week-end et surtout des rumeurs d'élections anticipées prévues en février. La première ministre Sanae Takaichi veut consolider sa majorité pour pouvoir arroser l'économie de stimulus budgétaire. Les investisseurs adorent l'odeur de l'argent public le matin, au point d'oublier les tensions diplomatiques avec la Chine. À Hong Kong, on continue de surfer sur la vague de l'IA et la Hang Seng est au plus haut sur les deux derniers mois. Nouvel IPO aujourd'hui, Giga Device Semiconductor a réussi une entrée en bourse fracassante avec un bond de 50% dès son premier jour de trading. BYD gagne plus de 3%, l'Europe a lâché du lest en publiant des directives permettant aux constructeurs chinois d'éviter sous condition, les fameuses taxes d'importation, ce qui a moyennement fait plaisir aux vendeurs de voitures en Allemagne. Les quelques chiffres qu'il faut retenir ce matin, c'est le baril qui est à 59,70, le WTI qui est sorti de son canal descendant, et si vous cherchez un coupable, c'est les tensions en Iran qui continuent de générer des inquiétudes. Les déclarations de Trump, oui, encore lui, laisse à penser que son prochain objectif se trouve là-bas, pendant que Cuba est en train de tomber tout seul. Les tensions mondiales, la redistribution des cartes de la géopolitique mondiale et les incertitudes que cela génère facilitent également le travail du métal jaune qui ne cesse de battre de nouveaux records. À l'heure actuelle, le métal jaune est à 4 600 $, l'argent est à 85,20, le bitcoin est à 92 000 $ et le rendement du 10 ans se trouve à 4,17 et le Japon, le rendement du 10 ans japonais est à 2,14 et oui, c'est un nouveau record sur ces 5-6 dernières années. Une des nouvelles du moment qu'il faut retenir et qui n'a rien à voir avec la politique ou la Maison Blanche, c'est Google qui a passé la barre des 4000 milliards de valorisation. Ils rejoignent Nvidia et tout ça grâce à l'IA et à Gemini. Hier, la nouvelle d'un partenariat avec Apple pour intégrer Gemini dans Siri d'ici la fin de l'année qui a permis donc à Google de passer le Rubicon. Les intervenants se demandent d'ailleurs si ça n'est pas le signe qu'on attendait sur Apple, le signe qui nous fait comprendre qu'Apple est en train de vraiment prendre l'IA au sérieux. Il y a déjà des bruits de couloir qui laissent à penser que cette news est peut-être le top départ qu'Apple attendait pour rattraper le retard accumulé ces derniers mois, tant en performance qu'en technologie. Depuis Shanghai, Sergio Ermetti, le patron d'UBS, a mené une offensive sur deux fronts. Lors d'une interview accordée à Bloomberg, il dénonce les nouvelles exigences des fonds propres en Suisse, jugeant qu'elles vont trop loin, et menace le modèle d'UBS. Pendant qu'il brandit implicitement la menace d'un départ vers les USA pour faire plier Berne, il mise tout sur l'Asie, moteur de 30% de ses profits. Le plan est clair, recruter 100 banquiers privés, émettre un panda bond en Chine et finaliser l'intégration de Crédit Suisse avec moins de 3000 licenciements restants. En bref, Hermetti demande à la Suisse de le laisser grandir sans lui mettre les bâtons dans les roues, histoire de remettre une couche de pression sur les autorités helvétiques. Pendant que Wall Street continue d'analyser le cas Trump contre la Fed et que tout le monde se demande si les 7000 sur le S&P 500 c'est pour ce soir, on attend également pas mal de choses en ce mardi 13 janvier, à commencer par la saison des résultats trimestriels qui commence. JP Morgan, Bank of New York, Mellon et Delta vont essuyer les plâtres des chiffres du Q4 2025. Il y aura ensuite les chiffres du CPI et du Core CPI. Les deux sont attendus à 2,7% sur base annuelle et à 0,3% sur le mois. Si c'est en ligne, c'est merveilleux. Si c'est ne serait-ce que légèrement en dessous, c'est carrément fantastique. Le marché semble avoir enfin décodé la méthode Trump. Beaucoup de bruit médiatique de punchline, choc, mais peu de base légale immédiate. Qu'il s'agisse de l'offensive contre Powell ou du plafond de 10% sur les cartes de crédit, les investisseurs ont racheté les dips, comme on dit là-bas. Ils ont transformé la panique initiale en nouveau record historique pour le Dow Jones et le S&P 500, pendant que Washington s'écharpe, l'Asie explose avec un Nikkei au zénith et une IA chinoise en pleine effervescence. Entre le franchissement des 4000 milliards de dollars par Google et l'attente fébrile des résultats de JP Morgan, Wall Street choisit d'ignorer le bruit politique et les vociférations de Trump pour se concentrer sur les fondamentaux et le buy the dip, encore une fois, comme en 2025. Les années passent, la stratégie reste la même. Pour le moment, en bref, malgré le vacarme de la Maison Blanche, la finance garde le cap des records portés par la technologie et une résilience à toute épreuve. Et nous, on se retrouve demain à l'heure du café pour revenir sur les chiffres du CPI et ses conséquences. Soyez forts, soyez résilients et rachetez sur faiblesse. C'est comme ça que ça marche en ce moment. À demain et très bonne journée.